France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les 7 péchés capitaux de la police, expression employée hier soir par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin pointe notamment la formation insuffisante des policiers, le manque de matériel. Sur le plan politique, la majorité a décidé d'une réécriture totale de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. On voit ça en détail Agnès, après les autres titres.
La fin du cauchemar pour Kevin Escoffier, récupéré sain et sauf par Jean Le Cam cette nuit, au milieu des 40e rugissants. La crise du Covid avec les réactions des personnels soignants après l'annonce du calendrier de vaccination. Nous verrons aussi comment les enseignants tentent de récupérer les élèves décrocheurs. Et puis si vous croisez à la tombée de la nuit un pingouin ou un élan lumineux, c'est normal.
Bon.
Noël est dans 23 jours.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Oui, ça fait des années qu'il écrit des livres, mais avec celui-là, il vit une belle histoire depuis sa sortie il y a 3 mois. Encensé par la presse, déjà vendu à 25 000 exemplaires, il a reçu hier le prix Goncourt. L'anomalie d'Hervé Le Tellier et le roman surprise et virtuose de la rentrée, le prix Goncourt 2020, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, on se retrouve Léa, 8h20, au moment d'une semaine cruciale pour la Convention citoyenne sur le climat, dans l'attente des derniers arbitrages de la future loi climat. On en parlera avec le garant de cette convention, Cyril Dion, et l'une de ses membres, Annie Cata. Vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter.
Le lien entre la police et la population n'est pas rompu. Conviction affichée hier par Gérald Darmanin, qui reconnaît pourtant qu'aujourd'hui, des comportements individuels et des difficultés structurelles posent problème. Et de lister donc devant les députés de la Commission des lois les 7 péchés capitaux qui pèsent sur les forces de l'ordre. Un encadrement insuffisant, des moyens inadaptés. Le ministre demande la généralisation des caméras piétons. Et avant tout, un manque de formation. Gérald Darmanin qui plaide coupable.
D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire la formation quand on embauche un policier, n'était pas une bonne mesure. J'ai parfois entendu l'opposition le dire. C'est une vérité. Parfois, elle se heurte à des réalités. On veut à la fois plus de policiers rapidement. Et effectivement, si on veut des policiers rapidement, il faut parfois raccourcir leur formation pour qu'ils soient plus rapidement sur la voie publique. Mais ce n'était pas un bon calcul. C'était une erreur. Être policier, tard le soir, dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, ça demande une formation initiale plus importante.
Autre piste envisagée par Gérald Darmanin, la réforme de l'IGPN, la police des polices, avec la possible nomination d'une personnalité indépendante à sa tête. Quant à l'article 24, il est déjà en cours de réécriture. Une première réunion a eu lieu hier soir à Matignon pour établir un calendrier de travail. Objectif, réécrire le texte avant les vacances de Noël. Et il n'est pas exclu non plus que l'article 24 disparaisse au profit de l'article 25. Alors l'audition du ministre de l'Intérieur a-t-elle convaincu les députés de l'opposition ? Reportage d'Élodie Forêt.
Cette audition, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, sourit l'insoumis Éric Coquerel. Lui qui, dans l'hémicycle, a souvent maille à partir avec Gérald Darmanin, n'a hier pas totalement reconnu le ministre de l'Intérieur.
Il nous a habitués depuis maintenant 2 semaines de débat à l'Assemblée à des réponses provocatrices, très dures. On avait l'impression qu'aussitôt qu'on mettait en question les questions structurelles dans la police, on était des amis du crime, voire des extrémistes. Bon là, ce soir, il reprend une partie des propositions que nous mettons sur la table depuis longtemps. Le problème de formation à la police, problème structurel, il l'a enfin admis. Donc c'est pas la même tonalité. Bon, maintenant il faut les actes.
Des actes que pour l'instant rien n'annonce pour Éric Coquerel. Durant son audition, Gérald Darmanin n'a effectivement pas remis en cause la loi de sécurité globale, réitérant aussi son soutien au préfet l'Allemand. Rien de neuf sous le soleil, donc, regrette le LR Sébastien Huyghe, qui attendait des réponses plus précises, notamment sur l'évacuation brutale des migrants place de la République.
On a eu des policiers qui étaient à contre-emploi. Et donc, ma question était de savoir pourquoi cette intervention dans la précipitation. Est-ce que c'était pour l'image qu'on n'ait pas une place de la République occupée? Pas de réponse à cette question.
On n'aura finalement pas appris grand-chose, soupire un autre député présent. Cette audition n'avait qu'un but, apaiser les tensions au sein de la majorité.
France Inter, il est 7h05, Kevin Escoffier, sain et sauf.
Mais quel cauchemar, 11 heures d'attente dans un radeau de survie, 2 nuits avec des creux de 6 mètres au large de Cap de Bonne-Espérance. Le navigateur avait déclenché sa balise de détresse hier après-midi après une importante voie d'eau. Jean Le Cam s'était aussitôt détourné pour lui porter secours. Et la suite, c'est Jacques Carès, le directeur du Vendée Globe, qui la raconte.
Le dénouement est presque miraculeux parce que c'est vrai que c'était pas du tout évident de récupérer Kevin de nuit, en pleine nuit. Donc Jean a un sens marin aussi très approfondi. Sur ce point, il est arrivé très doucement. Le vent mollissait, la mer devait peut-être se calmer un petit peu aussi. Ça a permis de faire une approche lente, mais il a vu une lumière rapidement et cette récupération a dû être assez active aussi. Et je crois que Kevin a fini à l'eau lui-même. Et dans ces cas-là, il y a un instinct de survie. Je sais qu'il a pris énormément de force sur lui pour remonter à bord. Je n'ai pas toutes les explications, mais je pense que dans ces cas-là, on est surhumain. Oui, il y a de l'émotion parce qu'il faut rester calme et en même temps, il faut être là. Et on avait affaire surtout à deux grands marins.
Propos recueillis par Jérôme Val et dans le journal de 8 heures, le témoignage de Jean Le Cam, sauvé en 2009 et sauveteur en 2020. Retour à présent sur le calendrier de la future campagne de vaccination en France. Priorité des priorités, les 750 000 résidents des EHPAD et leur personnel. Alors ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, comment ont-elles été accueillies par les personnels de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, région particulièrement touchée par le Covid-19? C'est un reportage de Mathilde Imberti.
Caroline Bousquet a tellement été exposée au virus qu'elle a fini par en hériter dès la première vague. Cette pharmacienne de Vénissieux compte se faire vacciner plutôt pour protéger les autres désormais, mais pas dans la précipitation.
Oui, je pense que j'aimerais peut-être plutôt attendre celui plutôt de Pasteur Mérieux, mais qui ne va pas arriver tout de suite. Est-il fiable, pas fiable, notamment le premier vaccin ARN qui va sortir? C'est quand même des techniques très nouvelles. Même parmi les professionnels de santé, je pense qu'il y aura certaines réticences peut-être à se faire vacciner tout de suite.
Et dans sa pharmacie, la piqûre n'est pas une évidence. Une partie du personnel n'aurait pas l'intention de se faire vacciner. Tout le monde s'interroge, confirme Laetitia Bouillot, 49 ans, infirmière libérale à Vénissieux, à la vie plus tranchée.
Il faut quand même que les personnels soignants soient protégés. Clairement, je crois que je vais me faire vacciner. Alors, on est tous un petit peu frileux, inquiets, en tout cas en questionnement par rapport à ces vaccin qui en effet arrive vite, mais en même temps tout le monde s'y est mis. Moi j'ai confiance et je vais rassurer la population quand je serai en mesure de le faire et que j'aurai compris les choses pour que les gens se vaccinent massivement.
Des personnels de santé qui attendent de la part des autorités des éléments clairs afin de mener la campagne de vaccination dans laquelle ils seront une nouvelle fois en première ligne. Vénissieux, Mathilde Imberti, France Inter.
Et sur la mise au point des vaccins, justement, le laboratoire américain Moderna a déposé hier une demande d'autorisation de son vaccin aux États-Unis, demande qui sera examinée le 17 décembre prochain. Les chiffres publiés hier en France, avec d'un côté 4000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, loin des 60 000 quotidiens il y a un mois, mais encore plus de 400 morts à l'hôpital. Et le taux de positivité continue de baisser lentement. Il était hier à 10,9%. Sur le plan économique, le gouvernement a annoncé hier une aide spécifique pour les stations de ski, notamment une indemnisation des remontées mécaniques fermées jusqu'en janvier. En Grande-Bretagne, la faillite pour l'emblématique enseigne de vêtements Topshop. La maison mère Arcadia est dans le rouge. Le groupe emploie 13 000 salariés dans 500 magasins dans le monde. À Londres, où le Premier ministre doit faire voter aujourd'hui au Parlement une série de nouvelles mesures restrictives. Un vote qui s'avère compliqué. Explication de notre correspondant Richard Place.
Cette pandémie réveille une ancienne blessure, une fracture qui sépare le nord et le sud de l'Angleterre. Le confinement avait le mérite d'être général, le même pour tout le monde. Cette fois, c'est le taux d'infection qui va décider du niveau de restriction. Les cartes des services de santé sont implacables. Le nord est nettement plus touché que le sud. À Manchester, Newcastle, Sheffield, les pubs, les restaurants, les entreprises, les salariés, les habitants vont donc être pénalisés, plus qu'à Londres ou à Bristol. Cette différence de traitement ne passe pas dans un Nord qui se sent déjà oublié, méprisé par la capitale. Et c'est bien dans le camp de la majorité que le choix du gouvernement est remis en cause. Environ 70 élus conservateurs, des députés qui ont demandé des preuves de l'efficacité de ce système déjà en vigueur avant le confinement. Ils s'inquiètent aussi sans doute pour leur siège conquis récemment dans une zone où l'on vote habituellement travailliste. Boris Johnson a pris le temps de discuter avec sa majorité ces jours-ci. Sans craindre un rejet du texte, il veut éviter un tumulte politique qui s'ajouterait à la crise sanitaire. Londres, Richard Place, France Inter.
Inter, 7h10, faire revenir en cours, Agnès, les élèves décrocheurs.
C'était l'enjeu de ce premier trimestre qui s'achève, particulièrement dans les filières technologiques, plus exposées au risque de décrochage. Mission accomplie au collège Romain Roland de Pontivy, qui compte 6 classes de SECPA. C'est un reportage de Wafia Kenich.
Cheveux nattés, en blouse de travail, Oran suit les instructions pour terminer sa chouette en céramique.
On a notre prof qui nous aide, hein. Puis elle s'y connaît, donc c'est beaucoup mieux.
La collégienne de 15 ans est en 3e SECPA. Depuis septembre, les ateliers, les cours ont repris et aucun des 12 élèves de sa classe n'a décroché. Corinne Andécha, principale du collège.
Ils sont revenus et il y a des classes entières qui sont revenues à 100%. Ce sont pourtant des enfants qui aiment en théorie le moins l'école et c'était les premiers à revenir parce qu'ils avaient besoin de nous, ils avaient besoin de cette sociabilisation, ils avaient besoin de ce cadre.
Un cadre et un lien particulier avec ses élèves, sans quoi l'apprentissage est parfois difficile. Dylan, 15 ans.
Quand on a besoin d'aide, on lève la main et la personne vient nous aider. C'est mieux d'être à l'école que d'être à la maison et tout, parce que du coup, on apprend plus de choses. Moi, j'aimerais bien me lancer dans la mécanique auto.
Pour le moment, Dylan et ses camarades ne savent pas si les entreprises pourront les accueillir. Marie-Laure Duré, professeur.
Ils ont hâte de découvrir aussi des métiers et de voir autre chose que la salle de classe. Même s'ils ont repris la pratique, ils ont envie d'aller dans le monde du travail.
Les élèves de 3e SECPA doivent pourtant choisir leur orientation début 2021. Une décision importante pour tout le reste de leur vie professionnelle dans un climat incertain.
Et rendez-vous dans le journal de 7h30 pour découvrir les résultats d'une enquête Ipsos FSU sur la gestion du Covid à l'école. Enfin, nous sommes le 1er décembre, le compte à rebours peut commencer. 23 dodos, Nicolas, avant Noël.
Oh,
et pour
mignon.
Donner oui, un petit air supplémentaire de fête cette année, les communes privées de marché de Noël, de grandes roues et de concerts ont décidé de miser sur les illuminations. Mathilde Dehimi.
Les décors sont désormais tous bien installés à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, avec de nombreuses nouveautés, confirme le premier adjoint au maire, Maxime Couton.
Nous avons renforcé tous les décors sur les places, notamment les ronds-points. Ce sont des élans, des pingouins, des petits ours, des lutins qui donnent un petit air joyeux en cette période un peu tristounette à la ville.
À Valence, on tente aussi de faire oublier les habituels chalets avec un grand sapin, une centaine d'arbres décorés et 360 motifs lumineux LED. Le maire Nicolas D'Aragon.
On a dû augmenter d'à peu près 20-25 000 euros sur les illuminations, puisque la grande roue, quand elle vient, nous coûte à peu près 40 000 euros. La grande parade, le soir de la fête des Lumières à Valence, nous coûte à peu près 15 000 euros. Donc on a pris une partie de cette somme pour la mettre sur des décorations permanentes.
Des illuminations qui serviront les autres années. À Tivancel aussi, on a vu grand.
On va passer de 2 traversées de route à 10 traversées de route.
Le maire de cette commune de 870 habitants, le long de la frontière belge, ne veut pas se laisser abattre. José Dubrul.
Les gens sont un peu à cran. Il y a une fatigue qu'il n'y avait pas lors du premier confinement. Il faut remonter le moral des troupes, comme on dit, et ce n'est qu'un petit morceau avec ces illuminations. Ça donnera un petit peu de baume au cœur.
Pour la première fois, la commune se lance aussi dans un concours d'illumination pour les particuliers, catégorie maison individuelle ou maison de cité minière.
Et puis à Bordeaux, pas de sapin, conformément aux vœux du maire écologiste, mais un spectacle numérique baptisé Chuchotis et Brouhaha.
Merci Agnès Soubiran.